Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'avoir choisi Studio Tamani pour vous informer. Il est 8h à Bamako et partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la matinale. Les structures hospitalières font face à une nouvelle pénurie de sang. Les responsables du Centre national de transfusion sanguine indiquent que la demande du sang est supérieure à l'offre. Ils invitent la population à donner leur sang pour sauver des vies. Célébration ce lundi de la Journée mondiale pour le droit aux origines. En quoi est-il important de connaître ses origines? Comment peut-on les perdre? Réponse dans ce journal. Le dossier de la rédaction s'intéresse aux calebasses dans le cercle de Blas. La vente de cet ustensile est une activité génératrice de revenus. En plus de son apport économique, elles sont aussi utilisées à plusieurs fins dans de nombreux foyers. Voilà pour les titres, le développement dans un instant avec Sekou Gadjigo. Nohum Djiré assure la mise en onde. Avoir du sang en cas de besoin relève d'un parcours de combattant dans les hôpitaux, mais aussi au Centre national de transfusion sanguine. Selon des sources sanitaires, il y a un manque de sang dans les services hospitaliers. Elles imputent la situation à un déficit de donneurs volontaires de sang. À 2 semaines de la célébration de la Journée mondiale du don du sang, la rédaction de Studio Tamani s'est intéressée aux questions liées au don et à l'accès au sang à Bamako et un peu partout dans le pays. Nos reporters Draman Maïga et Enza Traoré ont fait le tour de quelques structures sanitaires suivant leur reportage.
Au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, il y a une longue file d'attente des usagers devant la banque de sang. Chacun un document à la main attend son tour pour être servi d'une poche de sang. Selon les responsables du Centre national de transfusion sanguine, tout le monde ne peut être servi. Traoré Anassa, responsable de communication de la structure.
Les gens n'ont pas vraiment cette culture du don de sang. Ce qui fait que jusqu'à présent, le taux du don volontaire reste très bas, 21-22%. La population vient donner du sang lorsqu'il y a un besoin précis. Actuellement, on n'a pas vraiment les ressources nécessaires pour faire face vraiment à notre mission régalienne.
Bien qu'il soit très rare, Traoré Lassine est un donneur volontaire. Il nous explique le choix de son volontariat.
C'est pour sauver des vies que j'ai eu l'idée de venir donner mon sang volontairement.
À côté de ce dernier, il y a des usagers qui espèrent vite des compensations de sang qu'ils viennent de donner pour leurs parents en besoin. Ils affirment désormais comprendre l'enjeu et promettent d'être des donneurs volontaires. Lassana Cissé est un d'entre eux.
C'est ma deuxième fois, mais c'était toujours pour quelqu'un quoi. Mais dans l'avenir, je compte bien donner volontaire.
Cependant, ces promesses ne sont pas généralement suivies d'effets, regrettent les responsables sanitaires. Ils soulignent aussi le manque de réactifs, éléments indispensables à la collecte et au traitement du sang. Les structures sanitaires dans les régions de Gao, Tombouctou et Sikasso arrivent quant à elles à satisfaire les besoins de sang, notamment par l'appui des associations, nous expliquent leurs responsables.
Vous pouvez donc réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'armée malienne a annoncé avoir mené du 20 au 26 mai dernier une opération d'envergure dans les localités de Dialassagou, Sokoura et Wenkoro dans le cercle de Bankas. Bilan de cette opération, 17 terroristes tués, 9 motos et armes ont été également saisies. Le week-end dernier, une femme a été tuée, plusieurs chevaux froidement abattus à Djiguiné, Danka, dans le cercle de Djéné, alors que dans la région de Tombouctou, des éléments des forces armées maliennes ont été blessés. Le point de tout cela avec Sita Sidibé.
17 terroristes neutralisés, des armements militaires saisis, dont un PM, 2 carbines, 4 fusils de chasse, 4 talkie-walkie et 9 motos. C'est le bilan de l'opération Kelletigi menée dans le cercle de Bankas. Selon un communiqué de l'armée malienne, cette opération a permis aux habitants de Dialassagou, Sokoura et Ouenkoro de sortir de l'emprise des terroristes qui avaient depuis un moment fermé les écoles et saboté les réseaux téléphoniques. À Djéné, la pêche collective de Djiguiné-Danka a été interrompue ce samedi 28 mai 2022 par une attaque des présumés djihadistes. Selon des sources local, les chasseurs d'onzo de la localité ont repoussé les assaillants après quelques heures d'affrontement. Le bilan provisoire est d'une femme tuée et une quarantaine de chevaux abattus par les groupes terroristes lors de leur fuite. Pendant ce temps, dans le cercle de Yuwaru, un autre groupe de 14 combattants terroristes à moto a sommé les habitants des villages de Worowol et Djindji Daga de quitter les lieux. Des Les sources locales indiquent que ces deux villages ont été vidés de leurs habitants avant la fin de l'ultimatum de 72 heures. Plus d'un millier de personnes, dont des femmes et des enfants, se sont déplacées vers le chef-lieu de la commune urbaine de Yuwaru. Au nord du pays, précisément entre Tonka et Gundam, dans la région de Tombouctou, l'armée malienne est tombée dans une embuscade le vendredi 27 mai. Les femmes déplorent 4 blessés, dont 2 graves, un assaillant neutralisé et plusieurs matériels de communication saisis.
C'est à CDB, 8h05 à Bamako. La Cour suprême du Mali a annulé la décision portant admission au concours professionnel d'accès au corps des commissaires de police. L'information a été donnée dans son arrêt numéro 305 du 19 mai 2022. Cette annulation fait suite à une plainte déposée par un groupe de sous-officiers de police qui ont dénoncé des irrégularités lors du concours. Plus de détails avec Aïssata Diarra.
L'annulation de cette décision du directeur général de la police par la section administrative de la Cour suprême intervient 6 mois après le début de la formation des admis à ce concours professionnel. Selon les responsables de la section administrative, l'abus des pouvoirs du directeur général de la police dénoncé par des sous-officiers en est la cause. En effet, les résultats du dit concours avaient fait l'objet de dénonciations de la part de ce collectif de sous-officiers. Ces derniers accusaient les responsables de la police d'abus de pouvoir, expliquant à la section administrative de la Cour suprême. Ainsi, le même jour, une autre décision du directeur général de la police nationale a été annulée par la section. Il s'agit notamment de la décision numéro 2021-203 DGPN DPFM du 7 juin 2021. Pas de réaction pour le moment du côté du syndicat national de la police. Selon son porte-parole, une réunion est prévue demain 31 mai 2022 avec ses membres sur la décision de la Cour.
La ville de Mopti, confrontée à un problème d'eau depuis une semaine, en tout cas c'est ce que nous déclare Madame Nastire Kanta, présidente de la CAFO de la localité. Cette pénurie a eu un impact négatif sur la population. Pour éviter des situations similaires, elle propose la réalisation de forages dans les quartiers. Elle est au micro de notre correspondant Mopti, Mamoudou Bokoum.
C'est hier quand même que ça a été grave. Puisque hier, il n'y avait même pas de l'eau pour boire. Ça faisait pitié, quoi. Les femmes étaient partout dans les rues, de courir de droite à gauche. Toutes nos activités sont liées à l'eau. La vie humaine même est liée à l'eau. Mais heureusement, hier soir, à partir d'une heure et demie, l'eau a commencé à venir et puis ça continue. Pour ne pas avoir ça, il faut, au niveau des quartiers, prévoir des forages. Chaque quartier, même s'il faut 3 forages pour chaque quartier ou bien 2 à la rigueur. Sinon, si les robinets sont coupés, on sait que les puits aussi sont taris, il n'y a pas de fleuve. Si les robinets ne fonctionnent pas, les femmes vont utiliser l'eau de forage.
À l'instant, Madame Nassire Kanta, présidente de la CAFO de Mopti, elle était interrogée par Mamoudou Bokoum. Studio Tamani à Mopti, c'est sur la radio Kaoural 100.5 FM. Les guerres ou les conflits communautaires sont susceptibles d'avoir des conséquences dramatiques sur les réfugiés et les déplacés dans le temps si des dispositions ne sont pas prises. C'est en tout cas ce qu'estiment de nombreux sociologues. Parmi ces conséquences, l'on peut citer la perte des origines. La Journée mondiale pour le droit aux origines a été célébrée hier lundi 30 mai. Le reportage de Fatih Attara.
Pour le sociologue Drissa Sidibé, le phénomène de la perte des origines est accentué par le fait que certains réfugiés perdent tout repère après le déplacement, y compris les parents.
Aujourd'hui, quand nous prenons dans le monde, c'est 5 personnes, 2 ou 3, n'arrivent pas à retracer leur origine. Forcément, parce que avec le conflit, il y a le déplacement d'un lieu à un autre. Plus généralement, et ce qui fait que l'histoire de la personne, souvent, il peut être perdu. Plus généralement, on a souvent besoin de ses parents pour retracer leur origine.
Pourtant, connaître ses origines serait le garant de la personnalité et le bien-être d'un individu dans une société, poursuit-il.
Comme on le dit, souvent pour connaître là où on va, il y a un langage qui demande de connaître d'où nous venons. Donc souvent, quand nous retraçons nos origines, il y a une culture qui est là, qui permet à la personne de connaître les normes, les valeurs de la société. Maintenant, quand nous ne retraçons pas nos origines et ce que nos grands-parents avaient comme valeurs et normes, et règles dans la société, souvent nous perdons aussi des valeurs parce qu'on risque de nous lier à d'autres sociétés.
Rappelons qu'au Mali, il y a beaucoup d'ONG qui ont intégré dans leur politique l'appui des réfugiés ou déplacés à travers les retrouvailles entre les déplacés et leurs proches ou parents. Un paramètre très utile dans la connaissance des origines, explique des sociologues.
Reportage signé Fatih Yattara, 8h09 à Bla et Tomignan. Le commerce de calebasse est une activité rentable dans le cercle de Bla. Des hommes et femmes vendent cet ustensile du multifonctionnel dans les foyers et qu'on trouve dans plusieurs pays de la sous-région. Toutefois, ces vendeurs se plaignent de l'impact de la mauvaise pluviométrie de l'année dernière sur la production de calebasse. Moussa Malé Sissoko, de retour de Bla.
Bakary Diara est un vendeur de calebasse. Il dit exercer cette activité entre son village et la ville de Bla depuis près d'une dizaine d'années. Pour ce vendeur de calebasse, il n'y a pas de métier exclusivement dédié aux femmes.
Depuis 2014, je vends les calebasses dans le cercle de Bla. Je les revends également à d'autres commerçants. Je suis aussi un cultivateur. Pendant la saison sèche, je n'exerce que cette activité qui me permet de subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, le marché a été vraiment fructueux.
Awandao estime que la vente de calebasse est une activité qui nourrit son homme. La vendeuse de calebasse exporte ses produits vers les pays voisins du Mali.
Nous achetons les calebasses à la foire de Bla et au village de Tona. Nous les revendons au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Ici, nous vendons la vingtaine, des fois à 5 000, voire 6 000. Mais certains peuvent vendre un lot de 25 calebasses à 3 000, 4 000 et 4 500 francs CFA. Il n'y a pas de prix fixe et nous les vendons pour en tirer des bénéfices.
Mais Aminata Sogodogo affirme que la rareté de la pluie lors de la campagne agricole écoulée a eu un impact sur la production des calebasses.
Nous payons les transports pour l'extérieur. Il arrive qu'au cours des voyages que nous enregistrons des pertes. L'hivernage passé n'a pas été satisfaisant en matière de production des calebasses à Bla. Cela a eu un impact sur les ventes de cette année. Mais nous arrivons à gagner notre vie avec l'activité.
Pour des traditionnalistes, l'histoire de la calebasse renvoie à nos us et nos coutumes. Ils indiquent que la calebasse sont utilisées à plusieurs fins dans de nombreux foyers des pays sahéliens. Moussa Malé Sissoko, des retours de Bla pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en quelques brèves. Une session de capitalisation des expériences de l'éducation à distance par la radio a été organisée samedi dernier à Kay. Elle a réuni 12 écoles du centre d'animation pédagogique de Kay Rive Droite. Il s'agissait de partager les résultats obtenus dans le cadre du projet d'éducation par la radio. La rencontre a été organisée par l'Académie d'enseignement de Kay et financée par l'UNICEF. Elle a enregistrer la présence des responsables scolaires, des enseignants et des membres du comité de gestion scolaire. L'association Tapital Poulakou a organisé le week-end dernier une journée de commémoration et d'hommage à Amadou Ampateba à Koutiala. Selon les organisateurs, la rencontre a permis de revenir sur les œuvres de l'homme de culture et le rôle de l'école dans la socialisation de l'enfant. Une conférence débat et un sketch sur l'alphabétisation ont été les temps forts de la journée. Les travaux de restauration partielle de la toiture de la grande mosquée de Nioro ont démarré dimanche 29 mai dernier. La cérémonie a été placée sous l'autorité religieuse d'El Hadj Amadou Adital, calife général de la Tidjania. Elle a enregistré la présence des responsables politiques, administratifs et une délégation venue de la Mauritanie. Notons que cette mosquée, construite en 1864, elle est inscrite au patrimoine culturel mondial depuis le 19 mars 2009. Les villages de Djarakongo, Jiarive et Omasso, dans le cercle de Yoroso, viennent d'être dotés chacun d'un forage équipé de châteaux d'eau alimentés par des panneaux solaires. Ces équipements ont été inaugurés vendredi 27 mai 2022 par une équipe de la présidence de la transition. La cérémonie a enregistré la présence des des autorités locales et des populations des différentes localités. La réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. À 8h passées de 14 minutes, se referme donc cette édition qui vous a été présentée par Sikou Gadjigo, mise en nom de Nuhum Djiré. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Tout de suite, la question A. Les habitants de Tomignan vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. C'est du moins ce qu'affirment les autorités communales du Cercle. Selon elles, au niveau de ces secteurs, d'énormes défis doivent être relevés. Il s'agit notamment de la sécurité des personnes et de leurs biens et la sécurité alimentaire. Elles assurent avoir pris des dispositions pour le développement du Cercle. Esdras Keïta, premier adjoint au maire de Tomignan, chargé de l'état civil, répond aux questions de notre envoyé spécial Ousmane Alibouli de retour de Tomignan.
Une minorité qui vit de l'élevage, mais la plupart des habitants de la commune vivent de l'agriculture.
Quels sont les défis de votre commune?
Nous avons plusieurs défis. Je peux commencer par le défi sécuritaire, parce que c'est ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe dans le pays en général. Tomignan aussi est confronté à des problèmes de sécurité. Et c'est vrai qu'il y a eu des détachements qui sont passés au niveau de la commune pour des patrouilles. Mais jusque là, nous sentons que nos populations ont encore peur. Donc si éventuellement ces patrouilles peuvent être répétées, cela allait beaucoup nous soulager. Déjà, ils ont fait un effort. Il y a un camp qui est sur place actuellement à Tomignan-Ville. Avec ce camp, je crois que petit à petit, l'espoir est en train de revenir au niveau de nos populations. Sur le plan sécurité alimentaire, vous savez aussi que l'année dernière, la pluviométrie n'a pas tellement répondu et cela a amené un déficit alimentaire au niveau de nos populations. Donc nous sommes aussi confrontés à ce défi parce que bientôt c'est le début de l'hivernage et si les gens n'ont pas de quoi manger, ça va encore jouer sur les travaux champêtres. Nous avons beaucoup de difficultés, mais grâce à Allah, nous pensons que ça va aller.
Vous, en tant qu'autorité locale, que comptez-vous faire pour relever ces défis?
Déjà, nous sollicitons certains partenaires pour venir en aide aux plus démunis, ceux-là qui sont vraiment dans le besoin pressant. Donc, nous lançons des appels aux partenaires qui œuvrent dans l'humanitaire pour qu'ils viennent de temps à autre nous donner un coup de main. Pour la sécurité, bon, déjà, nous voyons l'effort que le gouvernement est en train de faire et nous voulons les encourager, encourager nos forces de sécurité à persévérer sur cette voie. Peut-être les jours à venir, nous aurons encore plus d'amélioration.
Et économiquement, comment se porte votre commune?
Bon, économiquement, ça va un peu parce que, bon, nous continuons les transactions économiques entre petits commerçants. Ça va. C'est vrai que dans un premier temps, au niveau des foires, on commençait à sentir parce que les gens ont peur d'aller au marché. Tout ça. Mais petit à petit, les choses sont en train vraiment de reprendre leur cours normalement. Pour l'instant, nous pouvons dire que ça va, même si ce n'est pas comme on le souhaitait. Mais petit à petit, je crois que ça va.